Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet d'actualité, un sujet qui nous préoccupe ici en tant que chrétiens, ici au Québec, au Canada. Et le désir, c'est qu'à travers cette prédication, cet enseignement, qu'on puisse voir l'importance justement de connaître ce qui se passe autour de nous, afin qu'on puisse avoir une réponse aussi chrétienne devant ce qui se passe. On va parler de la position chrétienne face à l'aide médicale à mourir. J'ai pris quelques notes dernièrement. Nous avons eu justement, pour certains ont déjà entendu, lors de l'Assemblée annuelle du Québec au mois de mai, on a entendu le pasteur Stéphane Couture, qui est le représentant de l'Alliance évangélique du Canada, nous parler sur ce sujet. Et je trouvais vraiment intéressant son approche et j'aimerais vous partager les points aussi afin qu'on puisse comprendre tous les enjeux de cette loi, comprendre aussi tout l'impact que ça a sur les personnes et qu'est-ce que nous devons, nous, en tant que chrétiens. Comment est-ce qu'on doit répondre devant ces choses? Souvent, des fois, les lois qui passent, et surtout que de plus en plus, les lois qui passent au Canada ou bien au Québec ne sont pas forcément favorables aux chrétiens. Et des fois, on ne connaît pas trop ces lois, puis on critique, puis on juge, ben c'est, peut-être que c'est normal pour ça, mais aussi on a besoin de connaître parce qu'on veut avoir une réponse. On veut que lorsqu'on parle avec des gens, qu'on connaisse le sujet et qu'on puisse apporter notre point de vue. Voilà pourquoi que c'est important aussi de comprendre, de saisir. On va voir à travers la parole de Dieu, on va prendre beaucoup de textes bibliques parce que c'est dans la parole qu'il y a la vérité. Et on veut s'instruire à travers l'appui de la parole de Dieu pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais simplement prier pour ce moment pour qu'on puisse vraiment être sous le regard de Dieu. Seigneur, on te remercie pour cette occasion que tu nous donnes maintenant de regarder à travers ta parole, à travers, Seigneur, ce sujet d'actualité, cet enjeu par rapport à l'aide médicale à mourir. Seigneur, on veut comprendre, saisir qu'est-ce qui se passe autour de nous, comment la société va, afin que nous puissions, nous, en tant que chrétiens, avoir notre position, qu'on puisse affirmer, réaffirmer notre position, mais qu'on puisse aussi, Seigneur, partager qui tu es, ce que tu es venu faire. Et nous voulons, Seigneur, qu'à travers ce temps, tu puisses nous parler, tu puisses nous inspirer, que ce soit ton esprit qui parle à travers ma bouche. Que, Seigneur, tu nous donnes l'occasion ce matin de comprendre, de saisir tout l'enjeu de cette loi et tout l'impact que ça a lieu, afin qu'on puisse continuer de prier, d'intercéder, pour que, Seigneur, il y ait des changements, pour que, Seigneur, nous puissions voir encore ta grâce, Seigneur, nous puissions voir encore ta puissance se manifester, afin que les gens puissent voir que tu es grand, que tu es Dieu, et que tu restes au contrôle de tout ce qui se passe. Nous te remercions et te louons, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous encourage à prendre aussi des notes. Si je pense derrière aussi, il y a des petits feuillets, vous pouvez prendre des notes aussi pour vous permettre aussi que lorsque vous aurez la discussion, peut-être avec vos collègues de travail, avec vos voisins, vous puissiez aussi apporter la position aussi chrétienne. Alors, quelques définitions. Donc, l'aide médicale à mourir, c'est un concept qui a été introduit donc, au Québec dans le cadre de la réflexion menée au projet de loi qui concerne les soins de vie, de fin de vie. Donc, il s'agit en sorte d'une forme d'euthanasie, c'est-à-dire un acte qui consiste à poser intentionnellement un geste dans le but de provoquer la mort d'une personne pour mettre fin à ses souffrances. C'est vrai que cette loi est rigoureusement encadrée, elle doit être faite par un médecin et ainsi assimilée à un soin de vie, un soin de fin de vie, donc le soulagement de la souffrance. Voici un peu le concept de cette loi. La définition légale que vous voyez justement sur aussi le PowerPoint, l'aide médicale à mourir est un soin consistant en administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie à la demande de celle-ci dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Ça, c'est la commission de l'éthique en sciences du gouvernement du Québec qui a donné cette définition. C'est vrai qu'on n'aime pas trop le mot euthanasie ou suicide, mais c'est réellement ce qui se passe. En donnant l'aide médicale à mourir, même si ce n'est pas un médicament, ça se fait, c'est une euthanasie, c'est aussi un suicide. Alors, regardons comment est-ce que cette loi est venue. On n'est pas les seuls pays à avoir cette loi. Même il y a des pays qui sont en Europe qui sont beaucoup plus avancés que nous sur certains soins. Hippocrate, c'est mon Hippocrate, hein, pour tous ceux qui travaillent, il y en a plusieurs qui travaillent dans le milieu médical, vous avez dû prêter serment normalement sur ce serment, et voici ce qu'il dit: je ne remettrai à personne du poison si on me demande, ni de prendre l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un plaisir abortif. Et ça, c'était 4 siècles avant Jésus-Christ. Donc, déjà avant Jésus-Christ, il y avait déjà encore peut-être déjà cette façon de mettre une personne à mort. Et voilà pourquoi Hippocrate va dire « Non, je ne mettrai personne en prison pour qu'elle puisse mettre fin à la vie. » Donc, en 2011, il y a une poursuite qui a été établie par l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique au nom de deux familles qui souffrent de maladies incurables. Et ils ont demandé au gouvernement de pouvoir permettre d'abréger leur vie par un médicament. En 2016, il y a l'adoption du projet de loi C-14, donc pour l'aide médicale à mourir du côté du gouvernement. En 2019, la Cour supérieure du Québec statue que la législation fédérale limite trop l'accès à l'aide médicale à mourir, en ne réservant qu'aux personnes dont la mort était prévisible dans un avis rapproché. Donc, on voit que le Québec est toujours un peu un précurseur par rapport au Canada, d'aller toujours plus loin aussi dans l'accomplissement de certaines lois. En 2021, le gouvernement fédéral a changé sa loi pour permettre aux personnes qui n'étaient pas en fin de vie d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Avant, il était réservé uniquement à ceux qui étaient vraiment en fin de vie. Mais maintenant, il est possible à une autre personne qui n'est pas en fin de vie peut demander aussi ce geste de l'aide médicale à mourir. Donc, des personnes qui ont des maladies chroniques peuvent maintenant aussi avoir accès à utiliser ce moyen. Cette loi prévoyait qu'en cette année 2023, ils allaient encore élargir cette loi pour inclure les personnes qui souffrent de santé mentale. Donc, vous êtes un jeune qui vivait en situation, en trouble de bipolarité, vous êtes fatigué de lutter avec votre maladie, vous pourrez demander l'aide médicale à mourir. Vous êtes une personne qui souffre de dépression, qui ne voit plus aucun sens à sa vie, qui n'arrive pas à accéder à des ressources d'aide sociale, à des aides solides, vous pourrez demander l'aide médicale à mourir. Même si cette personne a encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie sur cette terre. Donc, on voit de plus en plus comment que cette loi devient de plus en plus permissive, ouverte à toutes sortes de personnes. Prochain diable, à l'aide à la législation nationale en 2022, regardez, sur le pourcentage des gens qui sont décédés, 3,3% ont demandé l'euthanasie ou le suicide assisté, donc l'aide médicale à mourir. Au Québec, ça monte à 7,1%. 7,1%. Donc, on voit quand même que c'est grand, que c'est haut. On voit comment que justement, au Québec, on est toujours les champions. Même du côté mondial, on est les champions. On est les personnes, la société qui demande le plus, de pouvoir avoir cette aide médicale à mourir. Donc, on voit que cette nouvelle approche de la mort est en train de transformer nos sociétés canadiennes et québécoises. Le docteur Michel Bureau, qui est le président de la commission des soins de fin de vie, a dit qu'il était étonné de la montée rapide de personnes demandant l'aide médicale à mourir. Selon lui, cette croissance pourrait s'expliquer par le fait de la présentation d'aide médicale à mourir aux patients, est vue comme un soin et non comme une euthanasie ou un suicide assisté. Ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, on va dire « Ok, c'est un soin de fin de vie. » Au lieu de leur dire « C'est un suicide assisté ou une euthanasie, on n'aime pas trop ces mots. » Donc, on utilise de dire ben, « c'est juste un soin de fin de vie ». On a cherché une expression qui rendait, entre guillemets, la pilule facile à avaler. Même la loi sur l'aide médicale à mourir ici au Québec devait mettre en place beaucoup mieux de meilleurs soins palliatifs, c'est-à-dire des soins qui permettent de pouvoir permettre à la personne qui est vulnérable, qui a des maladies, puisse terminer sa vie dans la tranquillité, dans des soins qui soient adaptés à elle. Mais le Québec traîne la patte et n'encourage pas cette alternative. Aujourd'hui, c'est plus facile de recevoir l'aide médicale à mourir. Vous la demandez, en quelques temps, vous pouvez l'avoir, que d'avoir des soins palliatifs. C'est incroyable de vous dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile de demander la mort que de demander des soins. Au début de l'année, justement, le gouvernement a émis une loi pour repousser cet élargissement à l'année prochaine, parce qu'ils veulent consulter le milieu médical, mais aussi préparer la population à cette nouvelle étape. Et c'est quoi la nouvelle étape de cette loi? Écoutez bien. On parle dans quelques temps de permettre que cette loi puisse autoriser les mineurs à partir de 12 ans d'utiliser cette loi, et cela sans le consentement des parents. Vos propres enfants qui passent par un moment difficile, qui n'a plus envie de vivre, pourrait demander l'aide médicale à mourir, donnée par un médecin, sans que vous puissiez l'interdire. Vous voyez où on va aller bientôt la loi. en tant que chrétien, on ne doit pas seulement demander à reporter cet élargissement de la loi sur l'aide médicale à mourir, mais de cesser cet élargissement. Voilà pourquoi que l'Alliance évangélique du Canada et d'autres groupes chrétiens font pression auprès du gouvernement pour que cette loi ne soit pas élargie, comme on vient de le dire. Donc, prochain diable, on voit que notre société a développé une culture de la mort. On a commencé par l'avortement, en tuant des êtres vivants dans le corps de la femme. Et aujourd'hui, on donne la mort à des adultes qui ne sont pas encore en fin de vie. Ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8. Regardons ce que Dieu dit aussi par rapport à la mort, par rapport à ce qui se passe. Romains chapitre 14, versets 7 et 8 qui dit « Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivons ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Il est fort ce verset. Il dit, autant que tu vis pour le Seigneur. Ça, on le sait, on le connaît. Voilà pourquoi qu'on est là, voilà pourquoi qu'on continue de progresser, de cheminer avec le Seigneur. Mais si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Nous allons regarder un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire, justement. Donc, quel que soit que nous vivons ou nous mourons, nous appartenons au Seigneur. Nous allons voir, justement, si nous appartenons au Seigneur, à Dieu, celui de nos créateurs. Qu'est-ce que Dieu va nous dire aussi par rapport à la mort. Durant des siècles, les chrétiens se sont préparés à cette étape que chacun doit passer par la mort. Ils se sont préparés de ce temps d'une façon personnelle et spirituelle. Il est dit que justement les chrétiens ne croyaient pas que la mort était juste un combat médical à gagner, mais même s'ils pouvaient prendre des médicaments pour obtenir une guérison. Mais la mort était vue comme un exercice spirituel qui nécessitait une préparation. Tout au long de l'histoire, et particulièrement durant le Moyen-Âge, durant toutes les pandémies qui ont passé à travers le monde, comme par exemple aussi la peste noire, les chrétiens ont développé une discipline spirituelle face à la mort qui se nommait l'art de mourir, pour équiper et aider les chrétiens. Ils préparaient les chrétiens, malgré tout ce qui se passait, pour vivre la mort d'une façon digne et juste. C'est-à-dire qu'il y avait un accompagnement, ensemble, en public, pour aider les chrétiens dans ces étapes, pour témoigner aussi de leur foi. Aujourd'hui, on a perdu cette notion de préparation à la mort. Parce que cette étape de la mort, c'est juste une étape pour quelque chose de plus grand, de plus magnifique que nous allons voir avec le Seigneur, la vie éternelle. Prochain gars, alors comment pouvons-nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, se positionner devant cette question? Ce n'est pas facile parce que c'est quelque chose que nous pouvons vivre dans nos propres familles. Comment est-ce que nous allons nous comporter quand notre mère, fatiguée de vivre, va décider de demander l'aide médicale à mourir? Comment vivre, comment réagir si votre fils qui a une maladie mentale, qui demande à mettre fin à sa vie par l'aide médicale à mourir? Qu'est-ce que nous allons dire ou faire par rapport à une soeur ou un frère dans l'église qui lutte depuis des années avec une santé fragile et qui décline? Qui ne veut pas être un fardeau pour la famille et qui considère de demander l'aide médicale à mourir. Comment est-ce que nous allons réagir devant ces situations? Quelle aide, quel conseil pouvons-nous donner à ces personnes? Certains peut-être vont dire, ben non, moi je veux les rejeter complètement parce que je n'accepte pas ce geste. D'autres vont te dire, ben oui, je n'accepte pas ce geste, mais je veux t'accompagner parce que tu es mon frère, tu es ma sœur. Je veux te demander encore la grâce de Dieu sur toi, même si tu décides de donner la vie, de donner la mort. On ne veut pas être confronté à ce dilemme. Chacun de nous, on aura des personnes autour de nous, que ce soit des membres de la famille, que ce soit des collègues, des voisins, des amis autour de nous qui vont un jour se positionner par rapport à l'aide médicale à mourir. C'est pourquoi aussi que l'Église, souvent, n'aborde pas ces questions, ces enjeux, parce que c'est tellement difficile et c'est tellement polarisant, c'est tellement qu'on n'ose pas donner une véritable signification et on laisse de côté les gens dans l'ignorance. Alors, regardons quelques principes clés ce matin. Le premier, la vie est un don divin et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, l'homme et la femme possèdent une dignité inhérente qui mérite protection et soin. On n'est pas le fruit du hasard. On a été désiré par notre Créateur pour vivre une vie sous son regard. Donc, Dieu a créé L'homme à son image, comme on le voit dans le début de Genèse. Regardez, Genèse chapitre 1, verset 27, on connaît très bien ce verset. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il est créé pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il est créé homme et femme. Puis regardez ce qui est dit par la suite, recommandation que Dieu donna à l'homme. Il dit à l'homme de gérer la terre, de prendre possession de la terre, de prendre le rôle que Dieu lui avait attribué. Et regardez dans la fin du chapitre 1, verset 31. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Dieu est content de ce qu'il a fait. Dieu est content qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Ce n'est pas un accident. Même si peut-être, moi j'ai déjà entendu avec qui que je travaillais parmi les jeunes de rue, combien de fois des jeunes m'ont dit, je suis un accident, je n'ai pas été voulu. Ma mère m'a toujours répété que je ne devais pas vivre. Et Dieu l'a voulu. Dieu a créé l'homme et la femme à son image pour qu'ils puissent vivre. Même si le péché est présent, même si la mort est venue dans le monde, ce que Dieu a créé, comme homme, comme femme, la qualité de l'être humain n'a pas changé même aujourd'hui en 2023. Ce n'est pas parce que la mort ou la souffrance est arrivée que le plan de Dieu a changé et qu'on peut prendre le droit de mettre fin à notre vie. Et David va le dire dans le psaume 139. Ouvrons notre Bible dans le psaume 139, qui est un hymne à la vie. Si justement vous avez des personnes qui passent par des moments difficiles, prenez le psaume 139. C'est un tellement beau psaume qui célèbre la vie. On le voit dans le verset 13 et 16. Psaume 139, verset 13. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles. Prochain diage, je crois, Nicole. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'est pas caché à tes yeux, dans le secret. Verset 15. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je suis une créature merveilleuse. Alors si nous sommes une créature merveilleuse, comment est-ce que nous pouvons nous donner le droit de dire « Je mérite la mort, je veux mettre fin à la vie, à cette vie que Dieu nous donne. » Je n'ai encore qu'une masse informe que tu me voyais de ton registre, se trouvait déjà écrit tous les jours que tu m'avais destiné, tous les jours. Seigneur, c'est aussi le jour où nous allons partir de ce monde. Mais il veut que nous puissions le partir selon lui et non selon nos principes à nous. Alors, est-ce que c'est le plan de Dieu qui a inscrit tous les jours, a prévu que je puisse terminer ma vie par un suicide assisté? Est-ce que c'est ça vraiment le plan de Dieu? Est-ce que c'est cela que Dieu a prévu pour ma mère, pour mon père, mon fils, mon ami, proche, qui passe aussi, qui réfléchit à cette possibilité de prendre l'aide médicale à mourir? La vie est sacrée, elle est l'image de Dieu, elle est l'expression de Dieu. Donc nous sommes appelés, en tant qu'image de Dieu, à refléter dans le monde, à refléter Dieu, de ce Dieu de vie, de vérité, de justice, de miséricorde. Donc nous affirmons que tout être humain, quelle que soit sa race, son âge, sa capacité physique ou intellectuelle, son statut social ou économique, possède une dignité inhérente, fondamentale. La dignité inhérente, ça veut dire qu'on est tous égaux, libres, complets. Elle est pour tous. Elle n'est pas amoindrie parce que nous sommes nés trisomiques, parce qu'on souffre d'une maladie mentale ou parce qu'on a la maladie d'Alzheimer, ou qu'on est devenu paraplégique. Les pauvres, les plus vulnérables, les orphelins, les veuves, les réfugiés ne sont pas moins importants que ceux qui sont plus riches, que ceux qui contribuent au développement de la société. Nous sommes tous importants devant Dieu. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Nous avons la valeur devant Dieu et devant les êtres humains. Deuxième principe clé, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Puisque nous sommes une créature de Dieu, nous n'avons pas le droit exclusif sur notre vie comme sur notre mort. Ça appartient à Dieu. Voilà pourquoi nous devons laisser toute notre vie dans les mains de notre Dieu. Regardez Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Il dit « Reconnaissez donc, c'est moi seul qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui fais mourir et moi seul qui fais vivre. C'est moi qui ai blessé, c'est moi qui guérirai et de ma main, nul ne peut délivrer. Il est dit clairement dans ce texte, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Ce clair est très clair en disant que c'est Dieu qui a le contrôle de notre vie. Pas seulement les vies des croyants, de ceux qui croient en Dieu, mais tout être humain. Dieu a cette autorité sur lui. Personne ici a cette autorité ou ce pouvoir de choisir d'être né femme ou homme, qu'on soit blanc, noir ou de toute autre race. C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu nous a créés à son image, même ceux qui ne sont les plus vulnérables. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes comment va aller notre mort. C'est comme on va dire à Dieu, la vie que tu m'as donnée, je ne désire plus la vivre. Je vais décider quand je veux la terminer. La vie est entre les mains de notre Créateur, notre Dieu. On doit reconnaître son autorité, de faire sa volonté, de lui laisser le contrôle de notre vie, comme aussi de notre mort. Et Jérémie, chapitre 10, verset 23, le dit bien. Jérémie, chapitre 10, verset 23, qui dit, dans la version second Louis 21, « Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Alors, laissons dire, Seigneur, oui, tu as le contrôle. Nous appartenons à Dieu, au Dieu divin. Prochain autre principe clé. En tant que créature rachetée, nous appartenons doublement au Seigneur. On appartient à Dieu parce qu'on était créé à son image, mais nous vivons aussi pour le Seigneur. En Corinthiens chapitre 6, verset 13. En Corinthiens chapitre 6, verset 13 dit, « Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. » Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et si on regarde dans les versets suivants, verset 15, ignorez-vous que votre corps sont les membres du Christ? Et un peu plus loin dans les versets 19 et 20, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons honorer Dieu dans tous nos gestes, dans toutes nos attitudes, dans toutes nos réflexions, nos paroles. Et devant la mort aussi, nous devons aussi respecter aussi Dieu. Nous devons aussi voir que c'est encore le corps du Seigneur. Le Saint-Esprit est encore là pour habiter. Même si peut-être nous sommes défaillants, même si peut-être c'est difficile, Dieu va nous donner la force pour pouvoir avancer, pour nous permettre que ce corps puisse rester le temple du Seigneur. Un autre principe clé, nous devons assumer la responsabilité fraternelle de la vie. Nous devons assumer la responsabilité fraternelle de la vie. Dieu nous a créés à son image. Il est un Dieu communautaire, c'est-à-dire qu'il vit éternellement en communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on sait que Dieu est parfait, Dieu est trinitaire. Il a créé l'homme pour que nous puissions vivre cette communion les uns avec les autres et aussi avec lui. Nous sommes interdépendants les uns les autres. On n'est pas seuls sur cette terre. Juste regardez ce matin. Ce matin, vous êtes levé, vous avez mangé, vous avez pris des aliments qui ont été préparés par quelqu'un. Vous êtes venu en voiture, en métro. C'est des gens qui ont construit ce métro, qui ont construit cette voiture. Vous êtes arrivé ici, vous êtes arrivé dans un bâtiment qui a été construit, préparé aussi par des personnes. Vous avez assisté à ce culte dans la louange où des gens ont préparé ce temps de louange, ont préparé cette célébration. Nous ne sommes pas les seuls à faire les choses tout seuls. Nous sommes communautaires. Ce qui veut dire que nous avons besoin des uns des autres. John Donne, prédicateur anglais du Xe siècle, du XVIIe siècle, va dire « Nul homme n'est une île, en tout en soi. Chaque homme est partie du continent, partie du large. Si une parcelle de terre est emportée par les flots, c'est une perte égale à celle d'un promontoire. La mort de tout homme me diminue parce que je suis membre du genre humain. Aussi, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. » Ce prédicateur disait, on n'est pas une île, on n'est pas tout seul, perdu dans ce monde. On a besoin les uns des autres. Et lorsqu'une personne meurt, ça nous touche aussi parce que nous sommes ensemble, nous sommes en communion. Regardez justement ce que Paul va dire dans Philippiens. Ouvrons notre Bible dans Philippiens chapitre 1, versets 20 et 21. Philippiens chapitre 1, versets 20 et 21. « Car ce que j'attends et ce que j'espère de toutes mes forces, c'est de ne pas avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Paul va dire qu'il veut de toutes ses forces être ce témoin de Dieu, autant par sa vie que par sa mort. C'est fort ce qu'il dit. Que ma vie ou ma mort puisse glorifier Dieu. Et il est dit dans le verset suivant, verset 21, que la mort est un gain. C'est vrai que la mort soulagerait du souci terrestre. Et on sait que Paul était dans un temps de prison. On sait qu'il y a beaucoup d'ennemis qui veulent sa mort. Il sait que peut-être que justement s'il meurt, il va pouvoir rejoindre son Seigneur, son céleste Seigneur. Mais il veut, à travers la vie, à travers la mort, puisse glorifier Dieu. Prochain diable, mais Paul va continuer pour dire quel est son dilemme. Il sait qu'il est un prisonnier, bientôt qu'à la fin de sa vie. Mais voici ce qu'il va dire, même au prisonnier, dans les versets suivants. Regardez verset 22, verset 24. « Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais pas donc que choisir. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. » Imaginez ce que Paul va dire. Il veut rejoindre son Seigneur car la mort sera un gain pour lui. Mais pour que l'œuvre que le Seigneur lui a donnée, il dit que c'est plus nécessaire qu'il reste et qu'il se batte pour poursuivre le travail que Dieu lui a donné parmi ses frères et sœurs. Il ne dit pas qu'il veut abréger ses douleurs pour aller au ciel, mais qu'il est prêt à continuer le combat jusqu'au bout. Paul, s'il avait le choix, il voulait partir vers son Seigneur. Mais à cause de vous, à cause des personnes autour de vous, à cause de la mission que Dieu lui avait donnée, il va continuer son travail ici-bas. Et il va le dire quelques versets plus loin, dans le chapitre 2, versets 4 et 5. Chapitre 2, versets 4 et 5. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons avoir cette attitude dans notre vie, dans celle des autres qui nous entourent? Prochain diable. Donc, l'aide médicale à mourir est une forme d'euthanasie ou de suicide assisté, comme on l'a déjà dit, dont de meurtre, un acte interdit par la parole. Vous connaissez tous les décalogues, les 10 commandements. Le 6e, dans Exode chapitre 20, verset 13, il dit « Tu ne tueras point ». C'est vrai qu'on reconnaît les exceptions en cas de légitime défense ou en tant que pénalité imposée par une autorité compétente par rapport à un crime passible de la peine capitale, ou peut-être par les services de l'ordre ou les militaires. Mais ce sont des circonstances qui sont bien précises, bien balisées. Alors même aujourd'hui, si la société rejette les règles de la parole de Dieu reste vérité. Alors c'est vrai que, prochain diable, il y a dans les Écritures des personnes qui ont eu un grand ministère, mais qui ont demandé la mort, sans ôter la vie. Elles auraient voulu en finir parce que c'était trop pour eux. Mais Dieu ne leur a pas permis. Regardez Élie. Élie a eu un grand ministère. Rappelez-vous, il était sur la montagne devant 450 prophètes de Baal. Et là, il a commandé au feu pour savoir qui était le plus grand. Et le feu puissant de Dieu est tombé sur l'offrande que Élie avait faite. Mais après cela, lorsqu'il a entendu que la reine Jézabel voulait le tuer, il s'est enfoncé dans le désert et il a demandé la mort. En Rois, chapitre 19, verset 4. Et il demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Lui qui avait vécu de tellement de grandes choses, des miracles, de la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Aujourd'hui, il était dans une dépression tellement qu'il disait « Seigneur, Dieu, enlève-moi la vie, je ne veux plus vivre. » On voit Job. Rappelez-vous de Job. Hein? Job qui avait eu plein de grâces, plein de bénédictions, des nombreux bétails, des richesses, des enfants. Et en quelque temps, il a perdu toute sa richesse. Il a perdu tous ses enfants qui sont morts. Il a eu même une maladie incurable. Job, chapitre 7, verset 15 et 7. Il dit, « Je voudrais être étranglé. Je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Je suis dégoûté. Je n'en ai plus pour longtemps. » Ou si Job demandait la mort. Nous savons qu'il y a aussi eu Moïse. Donc, à force de pouvoir essayer d'encourager le peuple qui était rebelle, il a dit, ben, je veux mourir parce que le peuple est rebelle, je ne peux rien faire avec ce peuple. Jérémie aussi. Donc, des grands prophètes, des grands hommes de la parole de Dieu, qui à un moment de leur vie ont eu tellement de découragement, de faiblesse, qu'ils ont demandé la mort. Mais Dieu ne l'a pas permis de le faire. Dieu a restauré ces hommes, Dieu a restauré ces personnes pour qu'ils puissent continuer le travail qui leur avait été confié. Toutes ces personnes avaient des bonnes raisons de mourir. Et aujourd'hui, les gens décident de demander l'aide médicale à mourir. Ont aussi leurs raisons. Mais c'est notre Créateur qui choisit. C'est lui qui est le dernier mot, notre départ de cette terre. Alors, pour terminer, regardons. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que disciples de Jésus-Christ? Un point, c'est se préparer à bien mourir. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop dire, mais une bonne mort nécessite une préparation sérieuse. C'est-à-dire se préparer personnellement, se préparer avec la famille, de faire un testament, de préparer nos enfants pour qu'on lui dise, ben, voici comment ce que je veux mourir, voici ce que j'aimerais. Pour que le temps que nous puissions être dans ces derniers temps, nous puissions partir en paix, que nos proches puissent le faire aussi. C'est vrai, c'est toujours douloureux de laisser partir un être cher. C'est vrai qu'en tant qu'humain, nous n'aimons pas cela. Et c'est clair que oui, il y a des pleurs, il y a des angoisses. Dieu nous permet encore dans ces temps difficiles de nous rebâtir, de nous soulager par sa grâce, par sa force. Mais on a besoin aussi de se préparer. Même celui qui a une maladie incurable, Dieu peut l'aider, Dieu peut le soutenir pour qu'il puisse bien préparer son départ. Offrir un soutien réel à ceux et à celles qui souffrent. Nous sommes comme nous sommes communautaires, c'est-à-dire que nous sommes des frères et sœurs. Nous avons besoin de nous soutenir, on a besoin de prier les uns pour les autres, on a besoin de prier pour ceux qui sont en fin de vie, on a besoin d'aller les visiter, on a besoin d'aller les soutenir. Plusieurs fois dans la parole, Matthieu 25, 36, Galates 6, 2, nous dit qu'on doit aller visiter les malades, on doit aller leur faire du bien, leur montrer notre soutien. Même si peut-être on ne peut pas en faire grand-chose, juste tenir la main, juste prier pour eux, juste rester dans la présence avec ces personnes, va les aider aussi, aller plus loin aussi. On doit aussi développer une meilleure théologie de la maladie et de la souffrance. Aujourd'hui, on n'aime pas souffrir. Aujourd'hui, au Canada, on est les champions ici, du monde entier, de tous les médicaments pour soulager la souffrance. Dès qu'on a une souffrance, on prend un Tylenol. Heureusement qu'on a ces médicaments qui peuvent nous aider. On a besoin de voir que la maladie, que la souffrance fait partie aujourd'hui de ce monde. Et qu'on a besoin de voir, dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cela? Personne n'aime être malade. Mais Seigneur, si tu permets que je sois malade, si tu permets que je souffre, donne-moi la force, donne-moi la façon de comment réagir devant cela. Nous devons aussi prendre position publiquement. Prendre position publiquement devant les autorités. Et on va vous montrer tout à l'heure comment est-ce que nous pouvons le faire aussi en tant que chrétiens devant les autorités. Psaume 119, verset 46, il dit « Je parlerai des instructions devant les rois » et je ne rougirai pas de honte. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, notre message en tant que chrétien détonne. Si aujourd'hui on parle de l'avortement, ben on dit qu'on est dépassé. Si on parle justement qu'on est contre l'aide médicale à mourir aussi, on est des gens réfractaires, on est des gens qui sont arriérés. Mais on a notre position, on a le droit de défendre notre position. Nous sommes dans un pays libre, nous avons besoin, en tant que personne, de défendre aussi les positions du Seigneur. Alors, que faire aussi en tant que citoyen? On a besoin de se tenir informé des enjeux sociaux, légaux et moraux. Voilà pourquoi c'est important d'aller regarder un peu ce qui se dit dans les milieux chrétiens, dans les milieux non chrétiens, par rapport aux lois qui arrivent, afin qu'on puisse connaître, afin que lorsque les gens vont venir vers nous, qu'on soit conscient de ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils disent, pour qu'on puisse leur répondre avec des bonnes réponses. Demander aux autorités compétentes de meilleurs soins palliatifs. Comme on l'a vu au Québec, il y a très peu de soins palliatifs. Il y a très peu de lieux où la personne peut continuer de vivre dans la dignité jusqu'à mourir. On a vu durant le temps de la pandémie, combien de fois il y a des maisons, des personnes dans les CHLD ou dans des personnes de maisons de retraite, comment que ces personnes vulnérables ont été comme délaissées, abandonnées. Dans notre pays, soi-disant qui est compétent, notre pays qui soi-disant développés. On laisse des personnes mourir dans des situations atroces. Alors, on a besoin de dire aux autorités, on veut avoir des personnes, on veut avoir des lieux où il y a vraiment des soins qui sont vraiment justes, qui soient bons, qui soient acceptables. Participer à la campagne, aucune option, aucun choix, lancée par l'Association médicale dentaire chrétienne du Canada et par l'Association canadienne des soins palliatifs. Alors, vous pouvez simplement taper sur votre ordinateur, aucune option, aucun choix. Vous allez arriver sur une page Internet, vous pouvez mettre vos noms et ça va envoyer un formulaire pour dire que voici, en tant que chrétien, que je m'oppose aussi, justement, par rapport à cet élargissement de l'aide médicale à mourir. Participer à la campagne Arrêter l'expansion de l'aide médicale à mourir, qui est lancée par l'Alliance évangélique canadienne, dont fait partie l'Église méthodiste libre, en envoyant la carte fournie à son député fédéral. Derrière, vous allez voir qu'il y a des dépliants de l'Alliance évangélique du Canada, et justement, il y a un petit carton qui dit « Mettons fin à l'aide médicale à mourir pour les maladies mentales ». Comme on a dit, ça c'est le prochain pas que le gouvernement veut mettre en place. Et c'est très simple, tout est déjà fait. Vous pouvez simplement le poster, il n'y a pas besoin de mettre de time. Juste mettre votre nom et adresse. Et vous devez mettre le nom de votre député. Si vous ne savez pas, vous tapez sur Google « député fédéral sans rire » et puis il va vous donner qui c'est. Ici, c'est Marc Miller, ici. Mais dans chacun de vos quartiers, si vous ne le connaissez pas, vous marquez le nom et vous mettez ça à la poste simplement. Toutes ces cartes sont reçues par vos députés. Même si le député, lui, il doit vous représenter, même si lui peut-être va signer ou va accepter l'aide médicale à mourir, mais s'il voit que beaucoup de personnes se plaignent, beaucoup de personnes demandent qu'il y a un arrêt de l'élargissement de cette loi, il va se dire, ben, si j'ai beaucoup de personnes qui sont contre, lui, ce qu'il veut, le député, c'est être élu la prochaine fois, donc, d'accord, hein? Et s'il voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre, il va dire, mais ces personnes ne vont pas voter pour moi. Donc, on peut insister, on a une tâche, on a un pouvoir de décider, aussi ceux qui sont dans nos autorités, mais on a aussi le dire aussi à ces personnes, je ne suis pas d'accord avec ces lois. Et j'aimerais que vous nous représentiez aussi auprès du gouvernement. Nous devons prier pour nos autorités. Continuez de prier pour nos autorités afin que Dieu change, transforme ces personnes. Peut-être qu'on ne va pas revenir complètement en arrière, mais on a besoin de voir que Dieu est encore au contrôle, de voir que le monde ne va pas commencer pour accepter, comme on l'a vu, d'aller jusqu'à de permettre à des mineurs d'être capables de mettre fin à leur vie. Lorsque les lois sont passées, on peut très bien chialer, on peut très bien condamner, juger le gouvernement, mais si nous ne faisons rien, si on ne participe pas dans la prière pour demander la grâce de Dieu, pour demander qu'il y ait un changement, si on ne participe pas en tant que citoyen de pouvoir dire à nos autorités que nous ne sommes pas d'accord, si autour de nous, nous ne parlons pas à nos frères, sœurs, à nos amis, à nos connaissances, quel est l'impact de cette loi et qu'est-ce que Dieu veut nous dire, alors nous n'allons pas arriver. Alors simplement, j'aimerais terminer par juste en prendre un petit temps de prière de quelques minutes. Mettez-vous deux, trois personnes autour de vous et simplement priez par rapport à cette loi pour que nous puissions voir encore la grâce de Dieu. Que nous puissions peut-être cette semaine, si nous avons l'occasion, de parler avec un collègue, un ami qui peut-être pose la question, que nous puissions lui dire, mais voici ce que j'aimerais te dire. Voici que nous avons été créés à l'image de Dieu. Voici que moi, ce que je crois par rapport à la vie, par rapport à l'amour. Qu'on puisse avoir les mots nécessaires, qu'on puisse avoir l'audace de partager aussi. Alors, prenons simplement quelques instants. Chacun, un groupe de deux, trois personnes sur Zoom, vous pouvez mettre vos micros et prier aussi les uns pour les autres pour terminer, pour qu'on puisse intercéder, prier, pour que Dieu puisse agir. Dieu est capable encore de changer. Dieu est capable de changer ce monde. Dieu est capable encore de changer aussi le gouvernement, les autorités. Et nous voulons voir que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Seigneur, nous voyons tout cet enjeu de cette loi. Seigneur, nous pouvons dire que nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous sommes comme impuissants. Mais Seigneur, nous croyons que tu as la puissance. Nous avons ton esprit, nous réclamons, Seigneur, que nous puissions continuer d'être un témoignage autour de nous. Nous allons te prier, Seigneur, pour que toutes les personnes qui nous sont autour de nous, qui sont en fin de vie, tous ceux qui se posent des questions par rapport à cette loi, par rapport à comment faire pour leur mort, que Seigneur, on puisse avoir des réponses pour eux, qu'on puisse leur donner ta réponse que tu nous donnes. Que nous puissions voir, que nous puissions leur dire la réalité de ce qu'ils font. Voulons, Seigneur, te prier spécialement aussi pour tous ceux qui travaillent dans le milieu médical. Nous avons plusieurs infirmières préposées dans notre église qui sont confrontées à ce dilemme, qui rencontrent des personnes dans leur milieu qui veulent mettre fin à leur vie de cette façon. Je te prie que tu puisses leur donner ton discernement, ton intelligence, afin qu'ils puissent leur parler avec respect, avec amour, pour les encourager, pour leur montrer ce que toi tu veux pour eux. Seigneur, aide-nous à comprendre, à saisir tout ce qui se passe autour de nous. Nous savons que le monde continue sans toi. Nous voyons de plus en plus comment que les lois, les changements des cœurs des personnes. Mais Seigneur, on ne veut pas rester. On ne veut pas rester dans nos églises, on ne veut pas rester dans notre petit coin en attendant ton retour. Nous voulons aussi nous battre, nous voulons aussi défendre nos droits, nos valeurs. Alors Seigneur, donne-nous cette force, donne-nous cette intelligence, ton esprit, pour que nous puissions être là avec les personnes qui souffrent, avec les personnes qui se posent des questions, pour que Seigneur, on puisse les entourer, qu'on puisse leur montrer ton chemin. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous lâches pas et que tu nous démontres à travers ta parole comment que toute notre vie soit une célébration. Nous voulons le faire jusqu'au bout pour toi. Donc, Seigneur, maintenant que nous allons bientôt quitter cet endroit, que nous allons retourner à nos occupations, que, Seigneur, nous puissions rester, Seigneur, alerte autour de nous, dans ton discernement pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse voir ce qui se passe, qu'on puisse faire notre effort pour pouvoir aussi défendre tes valeurs. Que nous puissions aussi être à ton écoute pour pouvoir toucher une personne cette semaine dans les discussions afin d'apporter tes valeurs à toi, apporter ton message, ta parole. Alors merci Seigneur, parce que nous savons que tu vas nous accompagner, tu vas nous garder sous ton regard, dans ta force, tu vas nous donner encore ta paix, ta joie, ta bénédiction. Et nous voulons Seigneur te louer, te rendre gloire pour tout ce que tu es pour nous. Nous voulons honorer ton nom jusqu'au bout, quelle que soit la fin de notre vie, nous voulons que notre départ de cette terre puisse te glorifier toi seul. Nous te remercions, te louons, Seigneur Jésus. Amen. Amen.